nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Au début des années 1960, les pays occidentaux redécouvrent l'usage des plantes psychotropes. Avant même le mouvement hippie, ce sont des écrivains, des poètes, des voyageurs et même des scientifiques qui réinvestissent cette mycologie, l'étude des champignons, hallucinogènes en l'occurrence. L'émission que voici est le deuxième volet d'une série de 10 consacrée aux plantes divinatoires et aux champignons hallucinogènes, diffusée pour la première fois sur la RTF entre l'automne et l'hiver 1963. Dans ce volet, un romancier, Max Aube, et un éminent scientifique, Roger Heim, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, abordent ces plantes psychotropes sous toutes leurs coutures, de la science à l'histoire. Rapidement, ces discussions se focalisent sur le cas du Mexique, terre métissée, terre de tradition, où la consommation des plantes psychotropes se pratique toujours dans un certain nombre de communautés indigènes. Voici donc Genèse et Histoire, deuxième volet d'une série d'émissions autour des plantes divinatoires et des champignons hallucinogènes pour La Liberté coupable de René de Saulier. Première diffusion de cette émission sur la RTF le 2 novembre 1963.
La radiodiffusion télévision française présente La Liberté coupable. La Liberté coupable, troisième série.
Santo, 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 Santo.
Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composée par René de Saulier avec le concours de Jacqueline Harpet. Aujourd'hui, Genèse et Histoire, avec Roger M., directeur du muséum, et Max Aube. Réalisation, Pierre Barbier.
On sait, d'après des chroniques datant du XVe siècle, que les Aztèques, longtemps et bien longtemps avant la conquête du Mexique, et c'est là pour nous un point capital, utilisaient dans leurs cérémonies, cérémonies religieuses, cérémonies sacrées, cérémonies mystiques, cérémonies passionnelles, utilisaient dans leurs pratiques de magie également, en plus du peyote, plante sacrée, des champignons, dénommés Teonanacatl. On a découvert, ou plutôt on a redécouvert ces dernières années, des champignons sculptés dans la pierre. Et sur la tige est gravée la figure d'un dieu, et l'on pense également qu'il y avait là comme une sorte de réceptacle. L'on a même découvert des éléments, des débris de champignons à l'intérieur d'une petite niche. Ces champignons sacrés étaient tombés dans l'oubli. Pourquoi ? On pensait que les effets miraculeux qui leur étaient attribués entraient sans doute dans le domaine de la superstition. Mais il y a quelques années, après la guerre, des chercheurs américains, les savants Gordon Vasson et sa femme Valentina Pavlovna, redécouvrirent le culte des champignons dans des régions montagneuses du sud du Mexique. Et le savant mycologue Roger M., directeur du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, réussit par la suite à déterminer à quelle famille appartenaient ces champignons que les Indiens utilisaient jadis dans leurs pratiques. Bien entendu, ces savants, leurs équipes, des ethnologues, se sont soumis aux expériences. Et l'étude chimique du champignon, après sa détermination botanique, fut confiée par le professeur M. au docteur Hoffmann. Or, très curieusement, et il s'agit alors là d'une partie de l'histoire de la chimie depuis 20 ans, très curieusement, le docteur Hoffmann, dans le cadre de ses recherches, avait été amené à étudier l'ergot de seigle. Et vous savez quels troubles résultent de l'ergotisme. Il est évident que l'on essaie d'obtenir, depuis un produit naturel, qu'il s'agisse le seigle ou qu'il s'agisse du peyote ou du champignon, l'on essaie d'obtenir, par l'analyse, une formule chimique, et la formule aidant, Ensuite, on obtient un produit. Les expériences faites par le laboratoire, et en particulier après l'ingestion des lycides produits dérivant de l'ergot de seigle, les expériences montraient que des troubles très nets résultaient de l'ingestion. Il s'agissait de troubles de la perception temporo-spatiale et du sentiment de dépersonnalisation. Il s'agissait d'hallucinations visuelles colorées. C'est vers 1943 que le docteur Cialetti a pu mettre au point un produit qui maintenant est comparé avec le produit dérivé des champignons, les travaux de laboratoire aidant, des principes actifs des drogues, disait-on, magiques mexicaines, des principes actifs des plantes mexicaines, peyote, nous tirons la mescaline, et de champignons, nous tirons la psilocybine. Autrefois, on avait pu isoler les dérivés lysergiques de plantes inférieures, tandis que maintenant, on arrive à comparer les produits obtenus depuis l'ergot de seigle, depuis le peyote, depuis les champignons. Les produits en question, et nous parlons de chimie et non pas de drogue, les produits en question ont été nommés psychodysleptiques, c'est-à-dire produits hallucinogènes ou fantastiques. En effet, les hallucinations provoquées ne sont pas sans rappeler les visions étranges des tableaux de Jérôme Bosch ou de Bruegel. Il existe entre les différents produits que nous venons d'évoquer des similitudes d'action, mais chaque groupe a ses effets psychiques caractéristiques. Pour l'instant, en ce qui concerne le produit nommé psilocybine, notre attention est surtout attirée par le fait que le produit ingéré aurait pour effet de multiplier et de démultiplier les pouvoirs télépathiques. Cette particularité attire évidemment l'attention d'un certain nombre de chercheurs, spécialistes de la chimie du cerveau, et d'autre part, désormais peut-être entrons-nous dans une nouvelle phase de l'information de l'être. De la botanique à la chimie, vous voyez le pas. Et il est évident que nous devons quitter à un moment donné le plan médical pour en revenir à l'ethnobotanique. Et l'ethnobotanique est une science neuve, fondée, si vous voulez, entre savants. Il s'agit d'un accord qui serait comme passé entre les botanistes et les ethnologues. Très curieusement, d'ailleurs, l'on est amené à chercher quelles étaient les plantes divinatoires anciennes, et l'on dispose d'un certain nombre de textes. L'on dispose en particulier de l'histoire naturelle de Pline, mais surtout, et depuis les travaux du père Festugière sur Hermès, du catalogue des plantes décaniques, c'est-à-dire correspondantes au décan, du catalogue des plantes d'Hermès. Ces plantes sont nombreuses puisque l'on en trouve plus d'une trentaine. D'abord, la rue sauvage, et cette plante se retrouve sur la tête de la Mélancolia de Dürer, puis la langue d'agneau, encore dite plantain, enfin des sphérites, qui vont correspondre très curieusement à des métaux. Les sphérites sont des cyprès aux fruits globuleux, puis le dictame, la langue de bœuf, curieusement les buclos, et enfin des orchis. Tout ce catalogue concerne déjà quatre décans. Pour poursuivre, il est nécessaire de rappeler que les plantes sont souvent placées et cueillies sous l'invocation du soleil ou de la lune. Nous parvenons maintenant à une catégorie dite lunaire, et la très grande plante divinatoire est la pivoine. À la pivoine s'associe le pied de lion, puis l'œil de belette, la réglisse, des fougères, des verveines, la mercuriale, et, fait étrange, nous retombons alors vers le dragon, la queue de scorpion ou héliotrope, en fait le tournesol. Le catalogue d'Hermès se termine par la pivoine, plante sacrée même en Égypte, et par les sauges et diverses catégories de centaurées qui, bien entendu, sont alliées au Sagittaire. En corrélation avec ces plantes, avec ce catalogue des plantes, vous devez imaginer chaque fois des personnages du bestiaire ou des personnages mythologiques appelés figures zodiacales. Il est évident que l'on obtient là une sorte de constellation où sont associées et les plantes, vertu des simples, et les figures du zodiaque, et bien entendu, les simples furent connus dans tous les pays, sous toutes les civilisations. Songez par exemple à l'importance de l'hellebore. Une plante singulière attirait l'attention d'Hermès et des gens de sa suite, c'est le caméléon. Comme plante, une sorte de prêle, ce caméléon devenant un peu le symbole du soleil. Enfin, l'hommage est rendu, une fois de plus, à la femme, avec une autre catégorie de verveine, ou l'ustrago, hommage rendu à Vénus, puisque cette verveine s'appelle ceinture de Vénus. Ainsi, dans le monde occidental, intervenaient des catégories de plantes dites divinatoires. Elles sont et elles furent nombreuses. On ne peut oublier non plus l'orge et le blé. L'orge et le blé entrant dans les mystères d'Eleusis, surtout l'orge. Et à ce catalogue s'ajoutent maintenant les recensions faites à la fois en Asie, en Russie et au Mexique. Parmi les plantes sacrées mexicaines, vous connaissez les deux plus importantes, l'une venant des cactées poussant en montagne et appelée peyote, et l'autre champignon venant également des montagnes, surtout dans le pays mazatec. L'ère du peyote et l'ère des champignons ne se confondent pas. Chaque fois, géographiquement, il s'agit de lieux distincts, donc ces différents catalogues ont pour site des endroits très différents et nous ne pouvons en rien comparer l'action, si vous voulez, d'un breuvage lors des mystères d'Eleusis, ce breuvage étant appelé le kikeon à base de gruau d'orge. Nous ne pouvons en rien comparer l'action d'un breuvage à l'action qui résulte de l'ingestion d'un champignon, mais nous découvrons une relation désormais passionnante entre mets, breuvage et image. Entre mystère et image. Enfin, dans le catalogue des plantes divinatoires, on ne peut oublier l'herbe à serpent, Ololiqui, qui provoque des surprises. Herbe étudiée par Gordon Wasson, et nous avons trouvé, depuis un certain nombre d'années, un vieux texte du médecin espagnol et du naturaliste Francisco Hernandez, qui, mandaté par Philippe II, établit vers 1570 un répertoire de la faune et de la flore du Nouveau Monde. Alors paraît cette plante, oubliée, mais voisine à la fois du peyote et des champignons.
Et vous, Max Haub, que pensez-vous de ces plantes divinatoires?
Pour ce qui est de vos herbes, je dis vos herbes parce que ce ne sont pas les miennes, je trouve qu'en effet, elles reflètent d'une manière vraiment prodigieuse la matière elle-même du Mexique qui est un pays unique au monde. Il n'est pas un pays unique au monde à cause des herbes, mais tout de même les herbes sont ce qu'elles sont, je crois, parce que le Mexique est un pays unique au monde. Si peyote et quelques autres herbes ont surgi de la terre du Mexique, c'est peut-être parce que c'est vraiment l'Eldorado. Je sais... Vous direz, j'ai pris des herbes, je connais les herbes, vous aurez raison. Mais, tout de même, y a-t-il de ces herbes dans une autre terre?
Est-ce que les champignons sont des herbes, je l'ignore, mais Gordon Wasson est parti du nord de la Russie, est parti de Sibérie, pays des chamans. Alors, sans jouer sur les mots, nous pouvons penser que le domaine ou le régime de l'herbe ou des herbes est certainement universel. Mais il y a, en tout cas maintenant, dans la construction actuelle des tribus ou de certains pays parlant certaines langues ignorées de l'ensemble du monde, comme le Mazatec au Mexique, il y a une sorte de survivance dans des lieux extrêmement précis de rites très anciens liés aussi bien aux peyote qu'aux champignons.
Les champignons qui se multiplient d'une manière prodigieuse, n'est-ce pas, ont envahi en ce moment toute la culture mexicaine. Au fond, n'est-ce pas, les travaux très sérieux du professeur Haim et des autres n'ont rien à voir avec la poésie qui est pour moi, et même pour vous, j'en suis sûr, n'est-ce pas, le point fondamental de cette affaire. La poésie d'Octavio Paz est pleine de champignons. Les champignons qui ressortent des fresques de Bonampak ou des fresques même de Diego Rivera sur les murs de l'éducation nationale, ce sont des champignons qui ont aussi à voir, je crois, au fond, n'est-ce pas, avec ces champignons de la région de Oaxaca qui vous ont tellement surpris à votre dernier voyage à Mexico. Le Mexique est tout de même le pays aujourd'hui où la magie a la plus grande importance. Non du point de vue magicien, etc., mais du point de vue poésie, du point de vue étude de ce monde magique qui a été le monde pré-cortésien. Il n'y a peut-être aucun pays dans lequel l'histoire est redevenue quelque chose de palpable, quelque chose de direct, quelque chose d'actuel, comme au Mexique. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a eu une remontée profonde d'un intérêt beaucoup plus que culturel, quelque chose de vraiment extraordinaire. Quels sont les marchés de Mexico ? Vous êtes promené un peu à Mexico, vous aurez vu que dans les marchés de Mexico, la vente des herbes a une importance qu'elle n'a pas dans les herboristeries, dans les autres régions du monde. On trouve dans les marchés de Mexico, on vend toutes sortes d'herbes de pierre magiques, n'est-ce pas, qui ont évidemment une influence énorme.
À Mexico, donc, dans cette ville où l'on peut acheter des herbes, les produits semblent parfois vendus au marché à la disposition de tous. N'y a-t-il pas là un danger, celui de l'exotérisme de la drogue prise dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire en dehors d'un rituel et sans l'assistance du chaman? L'expérience dont vous avez entendu parler vous semble-t-elle dangereuse? Selon vous, que peut-elle apporter?
Elle n'est évidemment pas dangereuse pour les Mexicains. Elle peut être dangereuse pour les étrangers. Car, au fond, n'est-ce pas, si vous prenez des piments, enfin des poivrons, et des poivrons français, des poivrons espagnols, vous les transplantez à Mexico, vous les plantez à Mexico, et au bout de deux récoltes, évidemment, elles ont été transformées par la terre du Mexique en des chiles, c'est-à-dire en des piments qui ont une force absolument inconnue et très, très forte, trop forte pour les palais étrangers. Et quand je dis palais, je voudrais aussi faire une petite référence, n'est-ce pas, à ce baroque qui est, comme vous le savez, une des caractéristiques de l'architecture mexicaine. Au fond, les champignons mexicains sont peut-être de pauvres champignons ignares, n'est-ce pas, d'Europe, qui ont été transplantés au Mexique, n'est-ce pas, ils sont devenus des champignons baroques. C'est des champignons baroques qui donnent à l'esprit humain aussi, n'est-ce pas, une conception baroque de l'univers que vous avez ressenti quand vous étiez à Huautla de Jiménez.
Nous sommes au Mexique. Géographiquement, nous sommes au nord de Oaxaca et l'on arrive par Puebla. L'expédition, depuis Mexico, aller-retour demande environ 8 jours par les moyens du bord. L'expédition initiale, celle du professeur Gordon Vasson, puis celle du professeur Haim, puis des expéditions qui ont suivi, ont fait l'objet d'un certain nombre de publications. Un ouvrage vient de paraître, celui du professeur M, Champignons hallucinogènes. Nous en avons parlé avec notre ami René Etiamble. Il faut situer les choses donc dans leur cadre, dans leur lieu. Imaginez d'abord une ville de montagne en altitude à 2000 mètres. Il ne s'agit pas, à dire vrai, d'une ville, mais d'une sorte de long village avec une rue principale, très animé, et sur la place centrale se tient chaque jour un marché. Les Indiens dévalent, de toutes les contrées, de toutes les régions avoisinantes, ne circulent qu'à pied ou utilisent très rarement le mulet pour transporter les objets à vendre ou les objets achetés. Et chaque matin, ce marché bariolé offre aux indigènes et aux très rares visiteurs qui se trouvent être là les produits les plus divers, des poteries, des étoffes, de l'encens, du copal, c'est l'encens indien, et aussi, bien entendu, des plumes. Comme vous le savez, les Indiens, depuis très longtemps, manifestent un très vif attrait pour les couleurs flamboyantes. Donc, dans cette ville extrêmement animée, qui est la capitale de l'État Mazatec, dans cette ville se trouvent sur le marché des champignons qui sont l'objet de l'enquête et des expériences que vous savez. Nous sommes à l'hôtel. Et dans cet hôtel se trouve aussi, avant la tombée de la nuit, un dimanche, la Sabina, qui pour nous est le chaman, le personnage clé, Maria Sabina. Relativement âgée, en fait très vive, très courageuse, elle est très burinée, elle est très cuivrée, et la Maria Sabina est accompagnée de sa fille, qui commence à être initiée par elle, et qui sera donc le futur chaman, accompagnée également d'un jeune enfant, d'un tout jeune enfant. Cet enfant, comme nous le verrons par la suite, joue le rôle, sans être soumis à l'expérience, équivalente à celui du païs, de l'éphèbe, dans telle religion grecque, ou en tout cas près d'Hermès. Ainsi, à Huautla de Jiménez, dans ce grand village, comme aux confins du monde, et qui est relié à l'état voisin par une route unique, souvent coupée, village situé en altitude, et nous ne sommes pas loin de l'un des tropiques, chaque fois, les champignons qui enivrent, et dont l'existence est bien antérieure à la venue des Espagnols vers 1502, chaque fois, les champignons qui enivrent doivent faire l'objet d'une cueillette tenue secrète que seule peut effectuer la Sabina accompagnée de ses aides, et cette cueillette ne peut s'effectuer que vers la fin de la nuit et doit être terminée avant midi, sous certaines conditions de lune.
Monsieur le professeur Roger M., directeur du muséum, qui vient de publier plusieurs ouvrages et le dernier en date concerne justement les champignons, a bien voulu nous recevoir et il va vous présenter les premières espèces découvertes et identifiées par lui ces dernières années.
Il y a environ une quinzaine d'espèces hallucinogènes utilisées pour la plupart par les Indiens mexicains depuis fort longtemps. En vérité, les vieux textes nous montrent non seulement qu'ils les utilisaient, mais qu'ils les reconnaissaient l'une de l'autre parfaitement. Et c'est aux mycologues modernes qu'il a appartenu de les décrire et de les caractériser selon le langage de la mycologie actuelle. Ce à quoi j'ai eu la chance de pouvoir me livrer. Et parmi ces 15 espèces, on peut dire qu'il y en a 4 qui véritablement sont utilisées depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, par les Mexicains, particulièrement par ces grande tribu qu'on appelle les Mazatèques, les Apothèques, les Aztèques, les Michés et d'autres encore. L'un que j'ai appelé Psilocybe mexicana est le plus répandu au Mexique. C'est une toute petite espèce qui vient dans les prairies humides et toujours à la limite, comme les autres d'ailleurs, des terres froides et des terres chaudes. Ce ne sont pas des champignons tropicaux. Ce sont des champignons adaptés à une certaine altitude, juste au voisinage des cultures de bananiers. Le Mexicana est donc une toute petite espèce qui vient aussi quelquefois dans les champs de maïs. Le psilocybe des apothèques, que nous avons appelé Zapotecorum, vient dans l'eau des marécages. Le cérulescens, qui est très répandu surtout dans la région mazatèque, vient sur les résidus de distillation, de traitement de la canne à sucre. Et enfin, la petite espèce, peut-être celle que les Mayas utilisaient autrefois dans les forêts primitives du Guatemala, le yingensis, est une espèce qui vient sur le bois, en faisceau, et que l'on doit utiliser avec un nombre d'échantillons beaucoup plus élevé. Telles sont les 4 espèces les plus importantes, appartenant à un genre, le genre Psilocybe, que l'on retrouve d'ailleurs représentées par d'autres formes dans le monde entier. Mais les espèces mexicaines sont véritablement toutes adaptées au Mexique, ou tout au moins à l'Amérique centrale. Il faut y ajouter un autre champignon, qui est un strophère, le Stropharia cubensis, qui s'appelle ainsi parce qu'il a déjà été décrit de Cuba autrefois, et qui vient sur les bousses de vache, qui est non seulement un champignon hallucinogène, mais un peu toxique. Et c'est la raison pour laquelle les Indiens le considèrent comme de valeur secondaire en ce qui concerne l'usage qu'ils en font. Or, ce champignon, je l'ai retrouvé en Asie, et il contient, comme les exemplaires recueillis au Mexique, le même pourcentage des deux produits indoliques que nous avons extraits ultérieurement avec Albert Hoffmann sous les noms de psilocybine et de psilocine, qui sont les corps actifs. Voilà à peu près l'échantillonnage des champignons qui vont donc du gingensis qui est tout petit, en passant par le mexicana qui est un champignon très élégant avec un chapeau en forme de bouclier pointu, pour aboutir finalement aux apothecorum et aux cerulescens qui sont des champignons assez puissants avec des colorations magnifiques qui vont du noir jusqu'au bleu, au vert, au jaune, et qui atteignent facilement une dizaine, une douzaine de centimètres pour le chapeau de largeur. Ces champignons constituent donc, avec les autres formes que nous avons peu à peu recueillies et dont nous avons pu préciser qu'ils renfermaient aussi ces mêmes substances, la panoplie, en quelque sorte, des champignons hallucinogènes du Mexique. La question se pose de savoir s'il y a des champignons hallucinogènes dans d'autres régions du monde. Je vous ai dit qu'il y en avait en Asie, c'était la même espèce que celle du Mexique. Elle existait probablement en Asie avant le Mexique, puisque venant sur les bouses, ce champignon n'a pu être introduit au Mexique qu'après l'arrivée des bœufs, c'est-à-dire après l'époque pré-cortésienne. Aussitôt, lors de la venue des Espagnols, aussitôt de leur implantation dans le pays. Je dois dire qu'une note toute récente que je viens de présenter à l'Académie indique qu'il y a aussi un champignon européen qui renferme la psilocybine. C'est une espèce dont, a priori, on pouvait suspecter cette présence, qui vient dans les prés en France et qui, effectivement, est aussi une espèce hallucinogène. Mais je crois qu'il serait très difficile de pouvoir l'utiliser, étant donné qu'elle est très rare. Voilà donc les éléments essentiels qui ont été le point de départ de nos recherches. Il a fallu d'abord caractériser ces champignons, que les Mexicains, comme je le disais, avaient parfaitement reconnus, mais qui n'étaient évidemment pas décrits dans la nomenclature, et même d'autres que les Mexicains n'avaient pas pu séparer. Et c'est à partir de ce matériel, soit sec, soit vivant, que nous avons pu, avec mon ami Wasson, participer à ces cérémonies extraordinaires que les Mexicains réunissent depuis déjà pas mal de siècles. Et ensuite, grâce à la culture, au laboratoire, à Paris, au muséum, que nous avons pu mettre au point avec mon assistant Roger Cailleux, nous avions la substance qui permettait de continuer les expériences à Paris, puisque les champignons en culture enferment les mêmes pourcentages que ceux qui participent à la vie sauvage, et d'autre part, faire au point de vue chimique et au point de vue pharmacologique, et dans des expériences auxquelles le professeur Delay a bien voulu donner le départ et poursuivre avec ses collaborateurs des études tout à fait approfondies, c'était les deux chapitres qui prolongeaient véritablement les premiers travaux sur l'aspect mycologique et culturel concernant les champignons du Mexique.
Les champignons qui enivrent furent révélés dès l'arrivée des Espagnols. Les Indiens, qui sont, disons, cuivrés, attendaient un dieu blanc barbu. Et il se trouve que le conquérant était à la fois blanc et barbu. D'autre part, ces Indiens offrent une particularité dans leur isolement. Toute la mythologie mexicaine dépend de la pyramide de rites sacrificiels extrêmement cruels, de l'offrande du cœur de la victime, en général d'un captif, aux dieux ou solaires ou lunaires, en général lunaires, à tel point que l'on distingue toujours deux pyramides, la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune. Or, ce qui nous intéresse concerne à la fois les quelques textes appelés codex, textes illustrés si vous voulez, et concerne aussi des sculptures que l'on vient de redécouvrir et des fresques que l'on vient d'identifier. Et, depuis 2 ans, telle sculpture non identifiée, ou jusque-là qualifiée de sculpture phallique, devient en fait représentative de, disons, la religion du champignon que nous allons essayer de définir. Ces Indiens, menant une vie extrêmement rude, dans l'année, connaissaient plusieurs fêtes. Et l'une des fêtes dont nous avons été témoins peut être dite fête des champignons. Les champignons enivrants sont appelés chairs de Dieu. Alors, il est évident, et Gordon Vasson en a fait tout de suite la remarque, que le fait de manger des champignons signifie une consommation, et tout de suite, Gordon Vasson, qui est d'origine sans doute plutôt protestante, a dit « mais c'est l'hostie et le vin ». Il est évident que pour nous, le lien est tout à fait autre. Sous le rapport donc de la consommation des champignons, à quoi ressemble, nous excusons de cette formulation rapide, une séance à champignons? Eh bien, il faut nous mettre dans une perspective indienne et comprendre les choses telles qu'elles se présentent dans un pays rude. On ignore le vin. Or, assez curieusement, et avant la pénétration des Blancs, les Indiens, eux, s'enivraient, ou plutôt connaissaient des champignons qui enivrent, et le texte alors est espagnol, il est de 1520, les champignons enivrent comme du vin. Donc, nous touchons le problème de l'ivresse, et l'ivresse, assez curieusement, est considérée comme le complément du travail. Mais, pour en venir à plus de vérité, un autre vieux texte, celui-là indien, précise, et très nettement, ce qu'est en vérité le champignon. Dit Théo Nanakalt, l'expression signifiant « celui qui en mange beaucoup voit beaucoup de choses ». Ainsi, lorsqu'il sera question désormais des plantes qui nous préoccupent, je crois que la plus belle définition reste cette définition indienne « en manger, c'est voir beaucoup de choses ».
C'était La Liberté Coupable, 3e série. Plantes divinatoires, champignons hallucinogènes. Une suite d'émissions composées par René de Sellier avec le concours de Jacqueline Arpet. Aujourd'hui, Genèse et Histoire avec Roger M., directeur du muséum, et Max Hobb, assistant René Albach, réalisation Pierre Barbier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la RTF le 2 novembre 1963. À suivre.